hors champ. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors champ ce soir avec Édouard Louis. Quel est le premier livre que vous avez ouvert ?
Le premier livre que j'ai ouvert, ça devait être « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce, ce qui est le premier livre que j'ai constitué comme un livre que j'allais lire, que j'avais envie de lire, qui était un livre, oui, tout à fait déterminant pour moi, un livre dans lequel je me suis retrouvé, reconnu, identifié. Oui, ce serait Lagarce, « Juste la fin du monde ».
Et ensuite, ça a décidé de votre désir de faire du théâtre ?
Oui, en fait, quand j'ai lu cette pièce de Lagarce, donc à laquelle je me suis identifié, parce que c'est l'histoire comme ça d'un garçon homosexuel qui vit dans un milieu populaire de province et qui décide de fuir, partir à Paris pour s'inventer comme gay, s'inventer comme intellectuel, etc. Je me suis dit, mais c'est ce que je veux, c'est ce que je veux faire. Mais ça m'a en effet plutôt orienté vers le théâtre à ce moment-là. Et le désir d'écriture n'est pas venu tout de suite. Il est arrivé beaucoup plus tardivement, en fait, 2 ou 3 ans après, quand j'ai lu le livre de Didier Héribon, Retour à Reims, qui a chez moi produit aussi une identification très forte et un désir de correspondre à quelque chose, l'idée de correspondre à ce que c'est que d'être un écrivain, un auteur, un intellectuel, etc. Pour moi, le chemin de l'écriture s'est fait en 2 temps. Le chemin de l'invention de soi se serait fait en 2 temps et ces 2 temporalités, ce serait juste la fin du monde et retour à Reims.
Donc les livres, c'est la vie.
Les livres, c'est la vie. Les livres, c'est notre vie. Je crois que c'est aussi la vie qu'on n'a pas encore et la vie qu'on peut s'inventer à partir des livres. Je me souviens très bien que lorsque j'ai ouvert Retour à Reims, donc, qui narre donc, l'histoire de Didier Héribon qui quitte son milieu ouvrier, qui devient un auteur, un intellectuel reconnu dans le monde entier, etc. J'ai pensé, c'est mon histoire. Et plus j'y pensais ensuite, plus j'y réfléchissais. Et puis je me disais, mais non. En fait, c'est pas ton histoire, c'est pas vrai, et c'est plutôt ce à quoi tu aspires. Et je crois que les livres, quand vous parliez de vie, les livres peuvent produire ça, cette identification, ce désir de vie, ce désir de vivre autre chose, comme les livres, les mémoires de Simone de Beauvoir aussi, par exemple, qui sont des livres auxquels on a envie de correspondre, auxquels on s'identifie. Quand on lit Marguerite Duras aussi, on ressent ça, on se dit, mais c'est cette vie-là que je veux, c'est à ça que je veux correspondre, c'est à ça que je veux ressembler. Et ça me paraît être une force presque politique, si je puis dire, de la littérature.
Vous voulez dire que lire des textes comme ceux-là, qui ont été constitutifs de votre propre structure intellectuelle, ça vous a donné le possible, alors qu'avant c'était impossible.
Absolument, c'est-à-dire que une des raisons aussi pour lesquelles, quand on vit une vie, on en élimine plein d'autres, c'est qu'il y a des vies qu'on peut à peine penser. Et la littérature ouvre ce champ des possibles, en fait. Pour moi, qui étais un enfant des classes populaires, ouvrières du Nord, où l'absence des livres était totale, on était même contre les livres.
Il n'y avait pas de livre chez vous ?
Non, il n'y avait aucun livre. Et d'ailleurs, être un vrai garçon, être un mec, être un vrai dur, c'était résister aux livres, résister à la lecture, résister à la culture, qui représentait d'une certaine façon des signes d'efféminement. Lire, c'était comme une sorte de stigmate. Donc non seulement il y avait une absence, mais il y avait encore plus que ça. Il y avait un geste contre ça. Il y avait un geste contre la culture. Être un garçon dans ce milieu, dans le monde de mon enfance, c'était résister à la culture, résister à l'école, répondre aux enseignants, etc. Donc une sorte de reproduction inconsciente de sa propre exclusion. Et ensuite, la rencontre avec les livres, qui a été difficile, qui a été douloureuse, parce que quand on n'est pas habitué aux livres, il faut s'y acclimater d'une certaine manière. Il faut apprendre à lire, réapprendre à lire. Et les livres, ensuite, ont pu ouvrir ces possibles-là, mais tout ça a été très long.
Qu'est-ce que ça veut dire, apprendre à lire ?
apprendre à lire, ça veut dire qu'il faut comprendre ce qu'on lit, en fait. Les livres, c'est aussi sont des espaces de référence. Un livre, c'est aussi un espace de lutte. Quand on lit Pierre Bourdieu, si on ne sait pas qui est Lévi-Strauss, si on ne sait pas qui est Jean-Paul Sartre, si on ne sait pas qui est Simone de Beauvoir, on a beaucoup de mal à saisir les enjeux d'un livre. Il en va de même dans un roman aussi, avec une langue particulière qu'il faut apprivoiser, dont il faut se saisir, dont il faut... Et tout ça pour quelqu'un qui n'avait aucun rapport au livre, à la lecture. C'était un processus très très douloureux. Je me souviens qu'après Retour à Reims, quand j'ai commencé à me dire « je veux devenir un auteur, je veux devenir un écrivain, je veux devenir un intellectuel », je m'enfermais dans ma chambre et je m'astreignais à lire des livres. Je lisais Bourdieu, je lisais Duras, je lisais Faulkner. Et je me souviens que c'était très douloureux. Souvent, je souffrais beaucoup parce que je ne comprenais pas ce que je lisais, parce que je me décourageais, parce que pendant des années, je disais que les livres n'étaient pas faits pour moi. Je disais que les livres, ce n'était pas mon truc, comme on disait dans le monde de mon enfance, et sans se rendre compte que, en fait, j'en étais tout simplement exclu, que ce n'était pas un choix. Mais quand je disais ça, c'était une nécessité faite vertu, en fait. Et donc, oui, pour rentrer dans les livres comme ça, c'était, oui, quelque chose de long.
Et comment ça s'est architecturé, cette pensée à partir des livres ? Comment vous avez construit cette maison des livres qui vous a ensuite permis de devenir vous-même auteur ?
Ce qu'il y a de très fort avec la littérature ou les essais, c'est que, puisque la théorie est aussi très importante pour moi, était très très importante, c'était très important dans l'écriture de En finir avec Eddie Bellegueule, mon premier roman, et c'est que chaque livre lu aussi ouvre à d'autres livres, justement, quand vous lisez Bourdieu, qui se réfère à Thomas Bernhardt, qui se réfère à Proust, qui se réfère à Jean Genet, à chaque page, ce sont des univers qui s'ouvrent, des mondes qui s'ouvrent, mais il y a une rencontre entre, toujours très violente, entre un désir de devenir quelque chose et des déterminations sociales qui font qu'on a beaucoup de mal à étendre. On se dit « je veux devenir un auteur, je veux devenir un écrivain ». Il faut que je bâtisse en effet une culture, avec cette sensation de retard aussi qu'on a en tant que transfuge de classe, un retard qui serait comme impossible à combler.
Comme si vous n'aviez pas la langue pour.
Absolument, comme si on n'avait pas la langue pour, parce qu'on ne l'a pas d'ailleurs, on ne l'a pas quand on vient des...
Mais est-ce qu'il y a une langue pour penser, ou est-ce que justement chacun l'invente ?
On l'invente, mais on ne l'invente pas à partir de rien. Ce que je crois, c'est que, vous voyez, pour justement, on parlait de Marguerite Duras tout à l'heure. Duras, elle a inventé une langue parce qu'elle maîtrisait la langue d'une certaine façon. Et cette création ne peut se faire qu'à partir d'une certaine forme de connaissance, d'une connaissance de ce que serait la littérature antérieure, etc. On n'écrit pas à partir de rien, on n'écrit pas à partir de personne. Et il y a des langues, comme les langues des dominés, comme les langues des classes populaires, qui sont exclues de cette possibilité-là, qui sont privées de cette possibilité-là. On pourrait même dire que, d'une certaine façon, c'est Bergugno qui a très bien montré ça, c'est que le style, ce qu'on appelle le style en littérature, cette façon de trouver un ton, une manière d'écrire, etc., est aussi un principe de violence très fort, parce qu'avoir du style, c'est s'opposer à la langue ordinaire. Et donc si on pousse les choses un peu plus loin, à la langue vulgaire, à la langue populaire, et je crois que quand on écrit, il ne faut pas oublier ça. Je pense qu'il faut d'une certaine façon se protéger, d'une certaine façon d'une idéologie de la littérature qui consisterait à dire « toutes les langues sont littéraires », etc. Parce que ce n'est pas vrai, parce que la littérature, pour se constituer comme littérature, elle exclut des langues, elle exclut des vocables, elle exclut des vies. D'une certaine façon, quand j'ai écrit En finir avec Eddie Bellegueule, j'essayais de dépasser le plus possible ça, en incluant justement la langue populaire dans le livre, d'inclure tout le non littéraire dans le littéraire, etc. Mais c'est parce que je maîtrisais aussi la langue, que j'avais pu apprendre à la maîtriser par les lectures, par le système scolaire, etc., que j'ai pu ensuite jouer avec toutes les langues, vous voyez.
En lisant d'abord, avant d'écrire, est-ce que vous avez eu l'impression de changer de langue ?
Oui, j'ai eu l'impression de profondément changer de langue, une sorte de réapprentissage total de ce que parler veut dire. Et donc, d'une certaine façon, aussi des manières tout à fait différentes de penser le monde. Un langage différent, c'est une façon différente de concevoir le monde, mais avec, bien sûr, toujours le langage de mon enfance en moi, avec une sorte d'équilibre comme ça. écrire Eddie Bellegueule aura été pour moi une sorte d'équilibre entre ces deux langues, entre la langue acquise par les livres, etc., par la littérature, et la langue de mon enfance. Et je voulais accomplir ce travail sur les langues. Je m'interrogeais beaucoup, vous savez, sur cette idée de la langue de l'ennemi de Jean Genet, qui dit comment écrire avec la langue de l'ennemi, c'est-à-dire la langue de la culture, de la littérature, de la bourgeoisie, quand on parle des gens qui sont exclus de cette langue. Et il est vrai que moi, c'est un problème dans lequel je ne me suis pas du tout reconnu, parce que je me suis dit, au fond, la langue de mon enfance était une langue tout aussi ennemie que la langue de la littérature, vous voyez. C'était la langue qui disait pédé, c'était la langue qui maltraitait les femmes, c'était la langue qui disait youpin, crouille, bougnoul. Et donc, il y avait une sorte d'exercice entre ces deux langues qui seraient toutes les deux des langues ennemies, en fait. Et c'est ce travail-là que j'ai essayé de réaliser, que j'essaie de réaliser encore dans les livres qui viendront.
Et vous pensez qu'on peut se désembourber complètement d'une langue qui vous a été donnée dès l'enfance et avec laquelle on a commencé à prononcer les premiers mots ?
Non, je crois qu'on ne peut jamais s'en défaire tout à fait. Il reste toujours des traces de cette langue, de ce vocable. Et donc, comme je disais, de ces façons de voir le monde, je crois que c'est quelque chose qui nous abandonne jamais, d'une certaine façon. Je crois qu'on ne peut pas comprendre l'œuvre de Bourdieu, par exemple. On ne peut pas comprendre l'émotion qu'il y a sous chaque phrase, sous chaque mot, cette révolte qu'il y a derrière chaque paragraphe, chaque page de son œuvre, si on ne resitue pas Bourdieu dans ce qu'a été son enfance, dans ce qu'a été le langage de son enfance, dans ce qu'a été la violence de ce qu'il a vécu, la violence de sa trajectoire.
Mais il a mis beaucoup de temps à le dire et à l'écrire. C'est ça qui est incroyable, d'ailleurs.
Oui, Bourdieu a mis beaucoup, beaucoup de temps à le dire. Parce que d'une certaine façon, Bourdieu n'a pas eu la chance d'avoir Bourdieu. Vous voyez, c'est peut-être ce qui ferait la différence avec moi aujourd'hui, qui ai pu écrire un livre sur mon enfance plus ou moins similaire à celle de Bourdieu, en tout cas structurellement. Et moi, j'ai eu Bourdieu, j'ai eu Héribon, Bourdieu a fait éclore une parole à Annie Ernaux, etc., une parole possible sur ces sujets-là. Je crois qu'on parlait de ce que peuvent faire les livres. Ces livres auraient une autre capacité à nous faire soudain découvrir qu'on a une vie très riche, en fait. Que ce soit
positif. Chaque vie est riche.
Que chaque vie est très riche, en fait. Parce qu'il y a tout un tas d'expériences, tout un tas de choses, de scènes, de vécu, qu'on ne constitue pas comme du vécu. Vous voyez, qu'on n'identifie pas comme ça. Et vous ouvrez Pierre Bourdieu et vous vous dites, cette enfance que j'ai eue, elle veut dire quelque chose. Toutes ces scènes que j'ai pensées insignifiantes ont un sens. Et après qu'on a lu des livres comme ceux de Bourdieu, on se rend compte qu'on a une vie foisonnante, en fait. Même dans la violence, même quand c'est négatif. Mais tout ce qu'on a, on ne pensait pas comme signifiant, tout à coup est signifiant. Et moi, j'ai eu cette chance. Bourdieu n'a pas eu Bourdieu et moi, je l'ai eu.
Mais on va l'écouter.
Lorsque, par exemple, je vais parler de sociologie à des non-sociologues, à des non-professionnels, je suis toujours partagé entre deux stratégies possibles. La première qui consiste à présenter la sociologie comme une discipline académique, enfin comme s'il s'agissait d'histoire ou de philosophie. Et dans ce cas, bon, j'obtiens un accueil intéressé, mais précisément académique. Ou bien je cherche à exercer l'effet spécifique de la sociologie, c'est-à-dire je cherche à mettre mes auditeurs en situation d'auto-analyse. Et à ce moment-là, je sais que je m'expose à devenir le bouc émissaire, finalement, de l'assistance. Bon. Par exemple, j'ai eu une expérience il y a 2 ans à Bruxelles. Bon, j'étais allé à la Philharmonique de Bruxelles, invité par un responsable d'une association des amis de la Philharmonique de Bruxelles, qui très gentiment, mais un peu naïvement, m'avait demandé de venir exposer mes visions, mes représentations de l'art, de la musique, etc. Et jusqu'au dernier moment, je me rappelle très bien, dans la voiture, enfin, nous partions dans la nuit, etc. Je lui disais, vous savez, vous ne vous rendez pas compte, vous me faites faire quelque chose d'épouvantable, ça va être dramatique, il y aura des incidents, je vais me faire insulter. Et il pensait que j'avais comme ça le trac ordinaire du conférencier. Et ensuite, enfin, ce que je craignais est arrivé. Ça a été un véritable happening. Et pendant 8 jours, on n'a parlé que de ça dans le milieu intellectuel à Bruxelles. Et un de mes amis a entendu dire que, par un des participants, que depuis les surréalistes, il n'avait jamais entendu un débat aussi mouvementé extraordinaire qu'à cette occasion. Or, j'avais dit des choses tout à fait anodines, euphémisées, neutralisées. J'avais pris des précautions. J'avais en point de mire dans l'assistance une vieille dame très bien habillée avec son sac à main sur les genoux, un petit peu comme au Collège de France. Bon. Et j'avais un souci extrême de ne pas être choquant un seul instant. Donc je fémisais au maximum. Mais malgré ça, je pense que la vérité sociologique, enfin je mets vérité, mon hésitation marque des guillemets, hein, la vérité sociologique a une telle violence qu'elle blesse, enfin, elle fait souffrir. Et du même coup, les gens se libèrent de cette souffrance en la reprojetant sur celui qui est apparemment la cause. Enfin.
Est-ce que la lecture de Pierre Bourdieu vous a permis de comprendre ce qui vous arrivait de plus intime? Est-ce que ça a permis de classer les choses à l'intérieur de votre tête?
Exactement. La lecture de Bourdieu m'a fait comprendre que tout ce que j'avais vécu de plus individuel, tout ce que j'avais vécu de plus intime, était en fait traversé par la politique, était traversé par la société, par les collectifs, etc. Ça m'a permis de comprendre que quand, par exemple, Eddie Bellegueule pleure dans la cour de l'école parce qu'on le traite de pédé, parce qu'on le traite d'enculé, qu'on le traite de tarlouze, à cette époque-là, Eddie était un enfant qui vivait ça comme quelque chose de très intime, qui pensait que c'était un problème individuel. À la lecture de Bourdieu, ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est que ces larmes-là, c'était des larmes politiques, c'est des larmes rendues possibles par un contexte social, par une société qui rejette l'homosexualité, par une classe sociale qui la rejette encore plus violemment, etc. Et donc il y a une sorte d'arrachement à la solitude produit par la sociologie de Bourdieu. Et donc du coup, une possibilité politique qui s'ouvre.
D'ailleurs, le premier texte que vous ayez publié, c'est sur Bourdieu. Est-ce que ça vous a permis ensuite de faire un cheminement pour aller vers la conquête de votre propre individualité par l'écriture?
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais pris conscience de toutes ces choses, de ces choses que je disais, il y avait une possibilité de réinvention de soi. Bourdieu met à jour des déterminismes pour pouvoir mieux les combattre, pour pouvoir poser les principes de ce que serait l'émancipation, l'invention de soi, et l'invention de soi, donc l'invention de soi par une langue, par une subjectivité. D'une certaine façon, et Bourdieu m'a accompagné pendant tout ce cheminement, et j'ai pas écrit une ligne sans m'être interrogé sur Pierre Bourdieu et sur la façon presque d'une certaine manière dont Bourdieu aurait réagi en lisant ces lignes-là. Il n'y a pas une ligne écrite sans que je me pose la question, mais qu'est-ce qu'en aurait pensé Bourdieu? Et c'est quelque chose de très émancipateur pour moi, je crois, d'avoir ces modèles, en tête, ces modèles avec qui on écrit, ces auteurs avec qui on écrit.
Est-ce que c'est un roman, pour en finir avec Eddie Bellegueule?
Alors, en finir avec Eddie Bellegueule, oui, c'est un roman, et c'est étrange d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qu'on m'a reproché. Il était essentiel pour moi d'affirmer un discours de vérité avec ce livre, de dire ce que je raconte dans ce livre est vrai. Ce que je raconte dans ce livre est vécu, parce que pour moi, ce discours de vérité a une force politique importante qui m'intéresse. Donc je veux dire, mon livre n'est pas de l'autofiction. L'autofiction est une catégorie qui ne me va pas, puisque précisément, la fonction de l'autofiction serait de brouiller la frontière entre une expérience réelle, vécue, et des choses qu'on imaginerait autour, des situations qu'on développerait autour, etc. Moi, j'ai essayé d'une certaine façon de faire le contraire de l'autofiction, c'est-à-dire non pas de brouiller cette frontière, mais de réconcilier le plus possible la vérité et la littérature. C'était vraiment le geste que j'essayais d'accomplir par l'écriture d'Eddie Bellegueule. Et bien justement, je crois que la vérité, on l'approche par un travail de construction. Et que le roman, c'est le propre de ce travail de construction. On me dit, mais il faut savoir, soit c'est vécu ou soit c'est un roman. Or, il y a aucune...
Quand on lit, oui, on se dit que c'est ce que vous avez vécu. Vous l'avez mis en ordre. C'est devenu de la littérature.
Absolument, mais justement, je crois que c'est par cette mise en ordre, par cette construction qu'on approche la vérité. Plus on construit, plus on s'approche de la vérité. Et d'ailleurs, il n'y a aucune nécessité historique entre le roman et la fiction. Le roman, ça ne veut pas dire un travail fictionnel. C'est quelque chose qui s'est en fait imposé récemment. Dans les 30 dernières décennies, on a associé spontanément le roman. Mais il n'y a aucune nécessité historique ou sémiologique qui ferait que le roman serait comme ça, toujours.
Oui, quand on dit c'est romanesque, ça veut dire que c'est faux, c'est inventé.
Eh bien oui, alors qu'en fait, non, c'est pas le cas. Justement, le roman, c'est un travail de construction littéraire, c'est un travail avec les mots, c'est un travail que là, dans le cas de mon livre, j'ai essayé d'accomplir sur la ponctuation, les chapitres, les paragraphes, etc., qui me donne à voir une réalité et une vérité que la perception spontanée, que le témoignage ne me permettrait pas d'atteindre. Et c'est Marguerite Duras qui dit « Moi, j'ai la passion de la vérité ». Et elle avait compris que le travail littéraire, la construction d'un roman, permettait de toucher cette réalité qui ne s'offre pas au regard spontané. Tout comme Bourdieu, pour revenir à lui, construit un tableau du monde social. Bourdieu construit un modèle du monde social qui permet de voir la vérité du monde social qu'on ne perçoit pas comme ça, là, tout de suite, vous et moi, en le regardant. Et je crois que le roman permet ça. Et alors peut-être que le mot roman ne va pas, mais s'il ne va pas, c'est justement par le sens qu'on a essayé d'injecter et d'imposer au mot roman. Peut-être qu'il faudrait dire, je ne sais pas, roman scientifique, comme disait Zola, ou c'est, oui, ni de l'autofiction, ni un récit, parce qu'il me semble qu'il manque dans l'idée de récit cette idée de la construction. Et l'idée de la construction, pour moi, est essentielle.
Alors la construction fait qu'on peut lire votre roman comme étant finalement une sorte d'exercice jazzistique. Il y a un tempo particulier avec une construction très alternée de différentes temporalités. Comment l'avez-vous élaboré ?
Ce que je voulais dans ce livre, c'était aussi dire ce monde que je décrivais, réussir à dire ce qu'est la réalité, non pas tout à fait du prolétariat, mais de ce que Marx appelait le lumpen prolétariat, le prolétariat en haillon, c'est les moins qu'ouvriers, les gens qui considèrent même les ouvriers comme des petits bourgeois. Ma mère disait les ouvriers ont un salaire tous les mois, etc., régulier, pas nous. Et évidemment, donner à voir et à entendre la réalité de ce monde, c'était donner à voir et à entendre le langage de ce monde. C'est pas la même chose si on dit homosexuel ou arabe que si on dit pédale, crouille, bougnoule ou tantouse, etc. Et donc, il m'a fallu trouver une forme littéraire et justement, ce que j'ai fini par mettre en place, c'est-à-dire une succession de langages différents, différés, qui s'alternent, des niveaux de langage très différents, un langage populaire très déconstruit, défait et qui est aussi violent, un autre langage qui serait le mien aujourd'hui.
Vous n'avez pas l'impression d'être en surplomb de votre propre texte, justement, quand vous exprimez à propos ?
En surplomb du propre texte, non, mais le texte qui, en tout cas, serait en surplomb par rapport à l'expérience que je relate, ce serait plutôt ça. En fait, je pourrais dire qu'En finir avec Eddie Bellegueule, c'est un texte que j'ai écrit contre Eddie Bellegueule, parce que c'est un enfant qui, quand, par exemple, recevait cet enfant que j'ai été, donc quand recevait les coups ou les crachats au collège, détestait les individus qui lui crachaient dessus, détestait son père, de lui dire que les PD, il fallait les mettre dans des camps avec les Juifs, etc. Et le travail d'écriture...
Mais le père, il l'emmène quand même à un cours de théâtre.
Hein. Ben justement, le travail d'écriture m'a permis de m'arracher à ce qu'Eddie avait ressenti spontanément pour, dans la démarche de l'écriture, essayer de comprendre, en fait, hein, d'une sorte de recherche par les mots qui me permettrait de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi les individus parlaient comme ça, etc. Et donc l'écriture était, ouais, une sorte de surplomb par rapport à cette expérience-là, d'arrachement en tout cas, peut-être, mais d'arrachement à ça. Et puis justement, comme on le disait au début, c'est qu'il y a tout un tas d'expériences que je n'avais pas codées comme des expériences signifiantes.
Et vous avez découvert au moment de l'écriture même.
Absolument. En écrivant, on est devant son ordinateur et on se rend compte qu'on a vécu ça et ça et ça. Les souvenirs émergent justement parce qu'on a d'autres textes en tête, on a une structure littéraire ou théorique en tête qui fait que des expériences comme ça surgissent, en fait, hein, sous la plume.
N'empêche qu'il fallait trouver les mots pour pouvoir le dire.
Il fallait les trouver, c'était un...
Est-ce que vous les aviez au moment où vous viviez cette expérience ? Est-ce qu'il y avait dans votre arrière-mémoire cette espèce de sentiment, quand vous avez commencé à lire, que peut-être vous pourriez retranscrire?
C'est-à-dire qu'à la fois, oui, il y avait une sorte de mémoire du langage de l'enfance.
Mais de tout, hein, parce que votre livre est très, très visuel.
Que je voulais aussi absolument visuel. Je voulais avoir des scènes comme ça, avec toute la première partie du livre qui est presque impressionniste, qui n'est pas du tout chronologique, avec des touches comme ça pour restituer ce monde de ce village, ce monde de mon enfance, etc. Et je voulais, oui, donner à voir. Voilà, voir. Qu'est-ce que serait de réussir à voir. Mais, encore une fois, le souvenir de ce langage ne suffisait pas. Il a fallu passer par la construction. Vous savez, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'allais enregistrer avec un magnétophone ma mère et ma grand-mère. Et ensuite, je retranscrivais ce que j'avais entendu. Or, je me rendais compte que ça ne marchait pas du tout parce que c'était une syntaxe défaite, une syntaxe détruite, etc. La syntaxe de ceux qui ont été exclus violemment du monde scolaire. Et là, j'ai compris que si je voulais donner à entendre la vérité de ce langage, c'était par un travail de construction et d'arrachement à ce que serait spontanément ce langage-là. Et c'est pour ça que c'est un roman construit, que c'est pas une écriture blanche aussi. Vous savez, on m'a interrogé sur ça, et régulièrement on m'a dit, mais est-ce que vous inscrivez dans l'écriture blanche? Pour moi, l'écriture blanche, c'est une drôle d'idée. Je trouve même étrange que Annie Ernaux reprenne ce concept pour elle-même. Elle dit, je fais une écriture comme quand j'écrivais des lettres à ma mère, non construites, qui seraient en dessous de la littérature, etc. Or, moi, je pense que les livres d'Annie Ernaux sont plus construits que n'importe quel livre, que la plupart des livres, en tout cas, qui sont publiés ces dernières années. Et simplement, ce qu'il y a de révolutionnaire chez Annie Ernaux, ce qui fait que ces livres sont aussi magnifiques, aussi beaux, aussi puissants, c'est qu'elle donne une nouvelle définition de ce que construire un texte littéraire voudrait dire. Et c'est pas qu'elle construit pas, c'est qu'elle défait l'image classique de la construction. Et dire, comme on le fait tous, parce que j'ai l'impression qu'on reprend tous cette catégorie, y compris Annie Ernaux, que son écriture est blanche, ce serait un peu comme dire que la peinture contemporaine, que l'art contemporain, que Roscoe, par exemple, serait moins construit que Manet. Simplement, l'art contemporain a proposé une nouvelle définition de ce que construire voulait dire. Et Annie Ernaux, je crois, a fait la même chose. C'est pour ça, oui, qu'elle est révolutionnaire. Et moi, j'étais très marqué par ça. Qu'est-ce que ça voudrait dire construire? Je veux pas faire du style. Je veux pas faire du style comme l'image qu'on aurait de ce que serait faire du style, mais comment essayer de proposer une construction nouvelle? Ça, je pense que c'est quelque chose, une question qu'on doit se poser en écrivant.
Cela veut dire que ça passe aussi par une posture de non-vanité par rapport à ce que veut dire écrire et être écrivain. Vous parlez d'Annie Ernaux, on peut penser aussi à Marguerite Duras, qui a passé son temps à se débarrasser de tous les ornements langagiers, de la posture, du savoir-faire, etc., pour trouver sa langue.
Absolument. Marguerite Duras, elle disait souvent cette phrase que moi j'aimais beaucoup. Elle disait, au fond, moi, le style, je m'en occupe pas. Moi, j'écris, je dis ce que je veux dire, je dis ce que j'ai envie de dire, mais je ne suis pas là pour faire du style. Parce qu'en effet, ce que je crois, c'est que quand on dit style, on finit par confondre le style avec la rhétorique, en fait. Donc, quand on veut faire du style, on finit par faire une sorte de, je sais pas, une sorte de proustisme un peu surécrit, ou alors une sorte d'image de ce que serait l'avant-garde. Et Duras se défait de ce carcan du style, elle pose cette idée-là. Maintenant, on a une sorte de... Oui, cette idéologie du style s'est un peu imposée partout en littérature, comme si le style était premier. Un jour, j'ai présenté mon livre dans une université et un étudiant est venu me voir après la conférence et m'a dit « J'ai très envie d'écrire, mais il faudrait que j'ai du style. Je ne trouve pas de style. » Et c'est très étrange comme on pense. Évidemment, dire des choses différentes, dire des choses nouvelles, essayer de dire des choses qu'on ne voit pas, essayer de dire l'invisible, comme a essayé de le faire Marguerite Duras, c'est forcément trouver une écriture différente, c'est forcément proposer une écriture différente. Le style de Faulkner, l'écriture de Faulkner permet d'entendre et de voir les classes populaires du Mississippi comme on ne les avait jamais entendues auparavant, jamais. Mais c'est pas faire du style, vous voyez, c'est comment l'écriture, en se débarrassant justement de tous ces ornements, peut donner à voir des réalités nouvelles. Peut-être qu'il faudrait remplacer le mot style par mot différence, et que la différence serait forcément une écriture différente. Mais le style, oui, pour moi, était aussi un carcan, et j'ai voulu m'en débarrasser dès le début, me dire comment je peux construire autrement, mais ne pas faire du style, et dans cette lignée de Duras, en fait, oui.
Mais Duras, elle a mis 40 ans, 50 ans. Vous avez 21 ans et vous trouvez le mot juste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 21 ans et de publier un bouquin qui a un si fort retentissement? Ça veut dire quelque chose pour vous, être jeune, même très jeune? Ou pas du tout?
Non, c'est vrai que c'est une question que je me pose jamais. Je m'écris jamais en me posant la question de l'âge, en fait. Hein. Sartre disait l'âge est un irréalisable. Et c'est vrai. Là, moi, quand je suis avec vous aujourd'hui, en train de faire cette interview, je me sens adulte. Et puis ensuite, je vais aller regarder un blockbuster au cinéma et je me sentirai enfant. Et vous voyez, et j'alterne. On alterne tous.
J'irai peut-être avec vous à voir le blockbuster.
Je vous invite. Et en tout cas, on tous, comme ça, on passe d'un âge à un autre. Oui, moi, c'est une question que je ne me suis pas posée. Simplement, je me sentais traversé par des choses vécues, des expériences vécues. Il fallait presque les dégager de moi et les défaire de moi et passer par l'écriture. Ça aurait pu passer par autre chose, par le théâtre, le cinéma, par le militantisme, je ne sais quoi d'autre. Mais c'est une question avec laquelle, ouais, je ne vis pas. Mm-hmm.
Vous avez risqué gros en publiant ce livre ?
Il y avait des choses qui étaient, en effet, dans l'écriture du livre, pour moi, très très dures à écrire, parce que c'était des choses très intimes, très personnelles, tout ça. Et au moment où je les écrivais, je me disais, mais mon Dieu, tu peux pas écrire ça, c'est trop personnel, c'est trop intime, c'est presque même indécent. Mais justement, au fil de l'écriture, je me disais que c'était précisément ça qu'il fallait dire, et pas autre chose. Ce que tout le monde dit, c'est pas la peine. Vous dire ce que tout le monde dit, voir ce que tout le monde voit, c'est pas la peine. Et justement, la littérature devrait essayer de déplacer sans cesse cette frontière entre le public et le privé, entre le dicible et l'indicible. Et en effet, il y aurait une sorte d'acte de courage qui devrait toujours être là au moment de l'écriture, de dire tout ce qu'il y a de plus difficile à dire. Et moi, je me suis dit, c'est ça qu'il faut dire, et seulement ça. En effet, j'ai eu très peur ensuite. J'ai eu très peur, mais je crois qu'aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait.
Alors aujourd'hui, ce livre a obtenu un très grand succès. Est-ce que ça vous a étonné ?
Oui, ça m'a étonné. J'en ai été stupéfait même. Je crois que tout le monde l'a été. Le seuil l'a été. On ne sait jamais vraiment. Il y a une conjonction de choses. Quand j'ai fait des rencontres en librairie, après la sortie du livre, il y a beaucoup de libraires qui me disaient, mais quand on a reçu votre livre, qu'on s'est dit... Un livre aussi violent, avec un titre aussi énigmatique, parce qu'au fond, personne ne sait qui est Eddie Bellegueule et on s'en fiche. Et on pensait que ce serait un livre qu'on n'arriverait jamais à vendre, à conseiller, etc., à faire lire. Et il s'est passé quelque chose, peut-être une attente de parler justement de ces individus invisibles, ces individus dont on ne parle pas, les classes les plus exclues, les plus dominées, donc les plus invisibles. Il y avait une sorte d'attente de ça, oui, de parler de ce langage des classes, etc. Et d'en parler peut-être aussi comme j'ai essayé de le faire, parce que ce que je crois, c'est que non seulement on ne parle jamais des classes populaires, mais que la plupart du temps, quand on en parle, c'est dans une sorte de posture un peu pasolinienne, qui serait une mystification, mythification, les bons vivants, les gens plus authentiques, plus vrais, plus simples, etc., qui est une sorte d'idéologie de la bourgeoisie, en fait. Hein. Oui, peut-être qu'il y a eu une rencontre avec les lecteurs dans cet ordre-là, en tout cas. Qu'est-ce que voudrait dire parler de ça ? De la violence que vivent ces individus, de la violence qu'ils peuvent reproduire, à cause justement de la violence qu'ils vivent. C'est les questions que j'ai essayé de poser. Et voilà, le livre a rencontré cet écho. Et tant mieux, j'en ressens une grande joie, qui serait peut-être moins une joie personnelle qu'une joie politique, en fait. Une joie politique qui m'anime.
Est-ce qu'il n'y a pas eu méprise de la part de certains qui ont pensé que vous faisiez une autobiographie d'un petit garçon qui avait été violenté à la fois par sa classe sociale et par les circonstances et les conditions qu'il a traversées? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de compassion, quoi, de côté compassionnel par rapport au message?
Bien sûr, il y a forcément, quand un livre rencontre un tel écho, il y a forcément une part d'incompréhension à un moment donné ou de lecture qui n'est pas celle que j'aurais attendue. Donc effectivement, il y a pu avoir parfois de récupération d'un livre, une sorte de compassion, parfois des choses encore plus violentes, même des lectures qui ont pu être des lectures racistes, de dire regardez ces gens, regardez ces individus comme ils sont, alors que toute ma démarche a été inverse, et que par toute la construction du livre, j'ai essayé de me protéger de cette lecture-là du livre, mais on peut jamais tout à fait se protéger d'une lecture. Vous avez même des gens qui ont réussi à dire que Bourdieu était antisémite et que ses livres étaient traversés par l'antisémitisme. Donc c'est pour vous dire que les interprétations peuvent être très farfelues et qu'on peut jamais tout à fait les maîtriser. On se protège, hein, un maximum, mais oui, il y a eu évidemment une part de méprise, mais bon, si c'est le prix à payer, ma foi, il faut continuer à écrire et continuer à lutter, à se battre par l'écriture et par autre chose.
Vous dites premier roman, vous travaillez au suivant ?
Oui, en fait, j'ai commencé à écrire le suivant il y a un bon moment maintenant, parce que j'ai rendu le manuscrit de Eddie Belgel au mois de janvier 2013, c'est-à-dire il y a un an et demi. Et le lendemain, déjà, je commençais mon deuxième roman.
Comme par superstition.
Comme on en parlait tout à l'heure à propos de la lecture, cette sensation de retard que j'ai tout le temps, une sorte de course contre le temps. Et donc oui, ça fait un an et demi que j'ai commencé le second, et j'en ai plein d'autres en tête. Et voilà, donc je vais continuer à écrire, oui, évidemment.
Mais à écrire aussi des essais, puisqu'on parlait de ce livre collectif sur Bourdieu ou l'insoumission. Mais il y a aussi ce livre qui vient de paraître sur Michel Foucault. Donc comment alternez-vous votre disponibilité intellectuelle et mentale, soit vers un espace de réflexion et de méditation qui vous autorise à écrire personnellement, soit vers la pensée des autres pour mieux la transmettre?
Ben, ce qui est étrange, c'est que si j'écris un texte théorique ou un texte plus littéraire, je ne fais pas la différence au moment où j'écris, je les pense de la même manière. Évidemment, il y a une rhétorique qui est différente, une façon d'écrire qui est différente, etc. Mais je pourrais presque dire que je pars avec la même idée que ce que je vais dire, comment je vais réussir à le dire, etc. Alors évidemment, il y a des notes de bas de page ou pas, il y a des références théoriques ou pas, mais ce n'est pas quelque chose de tout à fait éloigné. Et justement, en finir avec Eddie Belgel, et le second roman que je suis en train de faire sont des livres qui sont traversés par la théorie. Et justement, cette idée de la vérité, d'ailleurs, est presque une idée que j'ai essayé d'importer de la théorie. Et ce qui fait aussi que j'ai été aussi attaqué par des sociologues, etc., quand j'ai publié En finir avec Eddie Belgel, comme si les sciences sociales avaient le monopole de la vérité, comme si la littérature ne pouvait pas être de l'ordre de la vérité, vous voyez. Parce que même quand certaines personnes défendaient En finir avec Eddie Belgel, on disait, mais de toute façon, c'est de la littérature, on fait ce qu'on veut, etc., on écrit ce qu'on veut, ce qui est vrai, mais c'est comme si la littérature était tout de suite séparée d'un enjeu de vérité. Et c'est ça que j'ai essayé d'injecter dans la littérature, et je pense par la théorie, en fait, hein, par les livres de théorie. Donc j'écrirai des essais et des romans, mais avec cette même préoccupation, avec des écritures différentes, mais des mêmes préoccupations. Dire la violence, dire la vérité de la violence, dire la vie, dire ce que, pas de la vie totalement, mais ce que peut être une vie, ce que peut être la vie d'un petit garçon différent dans un milieu populaire, ce que peut être une vie d'une femme des classes populaires, ce que peut être, voilà, ou la vie d'un immigré, etc.
Nous allons écouter Michel Foucault.
Il est très difficile, au fond, de définir ce qu'est actuellement la philosophie. Pendant très longtemps, et je crois qu'on pourrait dire, au fond, jusqu'à Sartre.
Sartre compris.
Sartre compris. La philosophie a été une discipline autonome, j'allais dire fermée sur elle-même. Ça ne serait pas ça, car la philosophie a toujours réfléchi sur des objets culturels qui lui étaient proposés, en quelque sorte, d'ailleurs. Elle a réfléchi sur Dieu, parce que la théologie le lui proposait. Elle a réfléchi sur la science, eh bien, parce que tout le système de nos connaissances lui offrait cet objet. La philosophie était donc une discipline ouverte, mais c'était une discipline qui avait ses méthodes propres, ses formes de raisonnement, ses déductions bien particulières. Il me semble que maintenant, la philosophie est en train de disparaître. Quand je dis qu'elle disparaît, je ne veux pas dire que nous arrivons à un âge où, finalement, tout le savoir devient positif. Mais je crois que la philosophie se dissout et se dissipe dans toute une série d'activités de pensée dont il est difficile de dire si elles sont proprement scientifiques ou proprement philosophiques. Nous arrivons à un âge qui est peut-être celui de la pensée pure, de la pensée en acte, et après tout, une discipline aussi abstraite et générale que la linguistique, une discipline aussi fondamentale que la logique, une activité comme la littérature, depuis Joyce par exemple, eh bien, toutes ces activités sont probablement des activités de pensée, et elles tiennent lieu de philosophie, non pas qu'elles prennent la place de la philosophie, mais en quelque sorte, elles sont le déploiement même de ce qu'était autrefois la philosophie.
Alors voilà un homme qui nous importe depuis longtemps, sur lequel vous venez d'écrire donc et coordonner des travaux très récemment, voilà un homme qui n'a jamais pris finalement le discours du roman. Il n'a jamais souhaité franchir ce cap, même s'il y a très peu, mais il y en a, des textes très personnels. Pourquoi, à votre avis ?
C'est toujours très difficile de répondre à cette question. Pourquoi on écrit un texte littéraire plutôt qu'un texte théorique, etc. C'est vrai que les livres de Foucault, les essais de Foucault sont très littéraires. Il y a une langue qui est très travaillée, une écriture sublime. Peut-être que vous savez aussi, on sous-estime toujours la part de contingence. Un jour, on se met devant son ordinateur.
D'humilité, peut-être ?
D'humilité aussi, oui, qui est très, très importante chez Foucault. Aussi, une idée de s'effacer comme ça derrière l'écriture, qui était déterminante pour lui. Alors même que quand il écrivait des essais, il écrivait des choses sur lui aussi. Hein. L'histoire de la folie, Didier Ribon l'a montré, c'était une histoire... Et Foucault, on l'a vu récemment dans une interview qui a été publiée. Foucault disait l'histoire de la folie, c'était l'histoire de mon homosexualité qui ne disait pas son nom. L'histoire de qu'est-ce que voulait dire être chassé, être mis à la marge de la société comme le sont les fous, etc. Et donc oui, il y a ce travail d'humilité, puis ce travail, oui, de contingent, je pense. Un jour, on se met à écrire comme ça, peut-être pour rire au début, un texte littéraire ou un essai, puis ensuite on est pris au jeu, on se prend au jeu, le jeu nous pénètre, et puis on devient théoricien ou on devient auteur. Évidemment, tout ça est déterminé par des rencontres, par des lectures, etc. Mais c'est vrai que choisir une vie, c'est toujours en exclure d'autres. C'est toujours, vous voyez, on ne peut pas vivre toutes les vies. Et une vie, c'est toujours un peu discriminatoire. On fait disparaître d'autres vies possibles qu'on aurait pu avoir. Et je pense que ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Moi, je ne me suis pas dit, un jour, je vais écrire un texte littéraire comme ça. Enfin, le projet est quelque chose qui met du temps à se dessiner. Il n'y a pas un projet qu'on pose au début, je crois. Et Foucault, il lui est probablement arrivé la même chose. Il a été emporté par la théorie. D'ailleurs, lui-même le disait. Il disait, je ne me suis jamais pensé comme auteur, etc. L'écriture est venue après. Et c'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup sur ça, qui réfléchissait aussi sur ce que voudrait dire de s'arrêter d'écrire. C'est quelqu'un qui exprimait toujours des désirs de fuite. Il voulait arrêter d'écrire pour partir vivre une autre vie en Californie, etc. Cette part de contingence, oui. En fait, Foucault s'est beaucoup exprimé dessus, je crois. Et on pourrait réfléchir sur ça à partir de lui, à partir de ce qu'il a dit.
Vous êtes étudiant à Normal Sup, pourquoi ?
Pourquoi ? C'est une question très très difficile. L'école normale, évidemment, est une institution que j'ai découverte très tardivement. On n'en parlait évidemment pas dans mon enfance, etc. Et puis quand j'ai commencé à lire, après retour à Reims, quand j'ai commencé à lire des textes théoriques, j'ai commencé à m'intéresser particulièrement à Sartre, à Foucault, à Bourdieu, à Derrida, etc. Je me suis rendu compte que c'était tous des gens qui étaient passés par cette école, dont je ne connaissais donc que le nom, l'École Normale Supérieure, qui était un nom qui m'apparaissait très bizarre. Et je me suis dit, une école normale, c'est normal. Et je me suis dit, mais alors je veux faire la même chose qu'eux. Et c'est pour ça que j'ai investi beaucoup de temps et beaucoup de travail. Évidemment, après, avec une situation de porte-à-faux très forte dans cette école que j'ai ressentie, mais probablement sans laquelle j'aurais jamais écrit En finir avec Eddie Bellegueule ou le premier volume sur Bourdieu, sans une situation de porte-à-faux sans laquelle j'aurais jamais écrit, qui était peut-être le point de départ de la création, puisque je me sentais différent, puisque je me sentais pas à ma place, il fallait d'une certaine façon justifier mon existence, et c'est passé par l'écriture.
Et vous venez d'avoir une bourse.
Je commence ma thèse à la rentrée. Et je me souviens que lorsque j'avais annoncé à ma mère que j'étais admis à faire mes études à l'école normale, elle m'a dit « Quoi ? Donc tu ne vas pas à l'université ?» Parce que pour elle, l'école était quelque chose qui était moins bien que l'université qu'on voyait dans les séries américaines, etc. Moi-même, j'avais voulu aller à l'université pour ces raisons-là. J'avais résisté au fait d'aller en classe prépa au lycée quand on voulait que j'y aille, etc. Parce que je voulais aller à l'université comme dans les séries. Et voilà, parce que c'était des enjeux desquels on était tout à fait déconnectés, que j'ai appris des choses apprises pas à pas, des choses que j'avais aussi beaucoup fantasmé. Pour moi, je m'étais dit, l'école normale, c'est un bouillonnement, un foisonnement intellectuel. J'imaginais un peu naïvement croiser Sartre et Simone de Beauvoir ou Foucault à chaque coin de couloir. Évidemment, les choses sont un peu différentes et on est toujours un petit peu déçus. Mais voilà, en tout cas, tout ça, je pense, oui, m'a permis d'écrire.
Ben, bonne rentrée, merci beaucoup.
Merci infiniment. Merci beaucoup.
à Cédric Chatelus, Anne Kobilac, Corinne Amard, Élodie Royer, Vincent Lecomte. Vous écoutez France Culture dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.